On a vu la semaine dernière avec les Jeux Olympiques, on a quelques prédications sur le thème de la vie chrétienne qui parfois, comment dire, utilisée comme exemple est une course qu'on doit vivre. C'est pas juste courir, mais qu'on doit vivre. Et on avait vu la semaine dernière qu'on doit courir notre course en gardant les yeux sur Christ. Et qu'est-ce que ça voulait dire exactement? C'est une belle phrase. Et qu'est-ce que cela impliquait? Et aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de parler toujours autour de ce sujet de la course, mais de comment continuer à courir malgré la fatigue. C'est quand même le plus difficile, n'est-ce pas? De continuer malgré la fatigue. Et on va voir un passage qui est bien connu, surtout quand on parle de ce sujet-là, en Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31, puis ensuite je donnerai un autre verset dans l'introduction, mais Ésaïe 40, et on ne va pas faire comme on fait d'habitude, où on reste que ce passage, où on voit mot après mot ou verset après verset, mais on va y faire référence à plusieurs reprises à travers cette prédication. Ésaïe chapitre 40, verset 28 nous dit: ne le sais-tu pas? Et bon, la manière qu'il le dit, c'est qu'il est en train de dire, tu devrais déjà savoir ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et souvent, on utilise ces trois dernières phrases pour ce genre de prédication, mais c'est tout ce qui vient avant que j'aimerais qu'on voit ce matin. Et à plusieurs reprises, il parle que comment c'est Dieu qui donne la force, que tout cela nous vient de lui, sans lui, c'est même pas la peine. Et même de. On va en revenir. Et ça, je rejoins ce passage avec le passage dans le Nouveau Testament, en Galates chapitre 6, verset 9, qui nous dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et justement, de pouvoir continuer la course malgré la fatigue, pour moi, ça rejoint cette idée de Galates, de ne pas se lasser. Ça veut dire qu'on est déjà en train de bien faire, mais de ne pas se lasser pour qu'on arrête de continuer à bien faire. Et c'est ça la difficulté de la vie chrétienne. Et parce que peu importe la course, hein, si on va comparer à une course, le plus important et le plus difficile, c'est justement de ne pas se relâcher pour pouvoir finir et terminer cette course. Même pour les courses de plus petite distance, hein, le 100 mètres, on voit la différence entre ceux qui arrivent à terminer leur course, toujours même en accélérant ou en gardant la même cadence, et ceux qui n'y arrivent plus et qui commencent à ralentir. Même pour une course de 100 mètres, et encore bien plus pour les courses plus longues, les courses de fond, les marathons, les courses de 1500 mètres, on voit que ceux qui arrivent vers la fin, ils restent 50 mètres, et on les voit accélérer, et les autres ils n'y arrivent pas. Et c'est ça la difficulté, de pouvoir continuer malgré la fatigue. Et c'est tout l'importance de toutes les courses, de pouvoir bien gérer son énergie pour que quand ils arrivent près de la fin, qu'ils soient plus sans force et que les autres les dépassent juste à la fin. Ça arrive. Et on comprend bien que ce soit une course de 100 mètres ou un marathon, la fatigue vient et nous empêche de courir comme on aimerait. La fatigue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous pousser à vouloir faire moins que ce qu'on faisait juste avant. Au début, oui, il n'y a pas de problème, mais maintenant je suis fatigué, je ne peux pas faire autant qu'avant. La fatigue pourra nous amener à avoir des doutes. J'imagine que ceux qui font les courses de fond, les marathons, ils disent à un moment donné, ils disent, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir terminer? Et la fatigue, si elle est assez grande, pourra peut-être même nous pousser, nous encourager, pour ainsi dire, à même abandonner. Bon, c'est plus la peine. Je suis derrière, j'en peux plus. Eux, ils continuent comme j'ai l'impression qu'ils ne sont même pas fatigués. Et on voit les choses autrement. Pas nécessairement comme elles sont, mais on les voit autrement. Et pourtant, tout le monde sait que la fatigue, ça fait partie de la course. Personne ne va prétendre vouloir faire une course et ne jamais être fatigué. La fatigue est normale. Il serait illogique de croire que je puisse courir la moindre course et de terminer cette course et ne pas être fatigué comme si je ne l'avais pas couru. Et il est tout aussi normal de comprendre que la fatigue spirituelle est quelque chose de réel et qui va affecter notre vie chrétienne, notre course chrétienne aussi. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est peut-être même le plus grand fléau pour moi dans le monde chrétien aujourd'hui, la fatigue spirituelle. Et des chrétiens qui faisaient bien, des chrétiens qui étaient engagés, mais qui avec le temps se sont lassés. Ils n'ont pas tourné le dos, ils n'ont pas renié, mais ils ne faisaient pas comme avant parce qu'il y a une lassitude. Ils se sont lassés de faire le bien. Et des chrétiens qui se sont donnés peut-être à un moment donné à plein temps pour le Seigneur, mais plus aujourd'hui. Des chrétiens qui venaient régulièrement à l'église, mais qui aujourd'hui ne font plus l'effort de venir régulièrement. Ils sont lassés de faire le bien, fatigués d'employer l'effort nécessaire pour pouvoir continuer, même juste comme ils faisaient avant. Des chrétiens qui lisaient et priaient régulièrement et avec ferveur, mais aujourd'hui ils ne veulent plus. Pas qu'ils peuvent plus, mais ils veulent plus fournir le même effort dans leur lecture et vie de prière. Des chrétiens qui ne rataient pas la moindre occasion pour témoigner à un moment donné dans leur vie, mais qui aujourd'hui ne réalisent même pas parfois les occasions qui se présentent devant eux parce qu'ils n'ont plus cette même vigueur et rigueur. Un peu comme Galates 5,7 où Paul demande, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? La fatigue en elle-même, faut comprendre, on la voit comme quelque chose de négatif, mais la fatigue en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Elle prouve que nous étions déjà en train de faire quelque chose. Hein, que la fatigue prouve qu'on a fourni un effort, sinon la fatigue ne viendrait pas. Ce qui est moins bien, c'est de laisser cette fatigue, cette lassitude nous empêcher d'aller de l'avant, nous empêcher de continuer notre course, nous empêcher de vivre notre vie chrétienne d'une manière qui plaît à Dieu, de façon à rendre gloire à Dieu. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et Dieu voulant, j'aimerais qu'on regarde à deux ou trois choses ce matin par rapport à la fatigue spirituelle. La première chose, ce sera justement la faiblesse de notre chair, pour ensuite voir la force de la grâce et de terminer avec l'obéissance de notre foi. Alors, quand on parle de fatigue, ça devrait automatiquement nous aider à réaliser justement la faiblesse de notre chair, notre propre faiblesse. En 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10, il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, tant qu'elles sont faites pour lui et pas des choses que j'ai provoquées de par mon ego. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul avait compris que la faiblesse en elle-même n'était pas une mauvaise chose. Et heureusement que c'est comme cela, que nous ne sommes pas forts selon nos capacités. Sinon, ce serait vraiment très différent pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Que ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma volonté, ce n'est même pas ma maturité, depuis combien de temps je suis sauvé, que j'ai grandi dans le Seigneur qui me rend si fort. Ma force, la Bible dit, doit être en qui? On le chante. Ma force est en Christ. Ma force est en Christ. C'est qui il est, lui, et ce qu'il fait en moi, dans mon cœur, dans ma vie. C'est, comme on l'a lu dans l'Ésaïe, c'est de lui que vient la force. C'est de lui qui vient, qui augmente la vigueur, etc. On va voir ce passage dans un instant. Ma puissance se trouve en Dieu. Nous avons tous le même Dieu et donc la même force qui est mise à notre disposition. Pas malgré ma faiblesse, mais ma faiblesse laisse la place pour Dieu de pouvoir agir en moi. C'est le chrétien qui se croit si fort, qui pense également ne pas avoir besoin de Dieu dans certains domaines. Et Dieu dit, mais je pourrais te rendre tellement plus fort si tu me laisses agir. Mais tu me bloques, tu penses être suffisant. C'est le chrétien qui sait qu'il ne peut rien sans Dieu, qui pourra également tout par Christ qui le fortifie. Qu'est-ce que l'homme après tout? La fatigue que nous ressentons nous rappelle que nous avons tous des limites, même spirituellement parlant. Il ne faut pas grand-chose pour que la personne la plus forte au monde ne devienne l'une des personnes les plus faibles du monde. Un accident, une maladie, tout change du jour au lendemain. La faiblesse de notre chair va affecter notre esprit et notre volonté. La faiblesse de notre chair va affecter même notre foi et nos convictions. Il ne faut pas croire que notre faiblesse, même physique, n'affecte pas notre vie spirituelle. Parce que ce n'est pas vrai. Elle va l'affecter, mais elle n'est pas obligée de l'affecter d'une manière négative. Comme pour l'apôtre Paul, comme il nous le dit en 2 Corinthiens 12, 9 et 10 qu'on a lu, cette faiblesse peut lui rappeler. Je peux me plaire dans ces faiblesses parce que j'ai appris. Je ne le savais pas au début, mais j'ai compris maintenant que c'est à travers ces faiblesses qui ouvrent la porte pour que Dieu puisse agir à travers moi. Ça enlève mon ego, ça enlève le moi, ça enlève moi tout obstacle que moi je pourrais mettre pour que Dieu puisse agir. Parce que je ne dépends plus de moi, de mes capacités, de mes forces, de ma volonté. Je dépends de ce que Dieu peut faire à travers moi. Alors, quand on se dit, mais d'accord, on est faible de par nous-mêmes, mais qu'est-ce qui peut nous rendre fatigués, même quand on fait ce qui est bien? Parfois, c'est parce qu'on n'a pas eu assez de repos. On peut tous comprendre cela. J'imagine il y a des athlètes qui peuvent se plaindre de ce que les situations ne sont pas ce qu'eux, ils voudraient, parce qu'ils n'aient pas assez de repos pour être au top le jour J où ils doivent combattre contre les autres. Mais ceci est aussi vrai pour nous, aussi bien dans le domaine physique que spirituel. On a besoin des deux, du repos physique et du repos spirituel. Nous avons besoin de ce repos de temps en temps. Nous élevons nos enfants en leur disant « tu as besoin d'une sieste ». Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, oh ben, je suis grand maintenant, je n'ai pas besoin de sieste. Et ensuite, quand ils viennent à mon âge, j'ai besoin d'une sieste. En fait, ce n'est pas si mal les siestes. On se dit, j'ai besoin de repos pour que je puisse, même si c'est 20, 30, 40 minutes, pour que je puisse redémarrer, mais mieux que si je n'avais pas ce repos. Et dans le domaine spirituel, on a besoin de ce même repos. Peu importe notre âge, peu importe notre maturité spirituelle, on a besoin de prendre, si vous voulez, des siestes spirituelles. Ça ne veut pas dire où on met tout de côté, où on ne vient pas à l'église et on ne lit pas sa Bible, non. Mais on a besoin de prendre du temps parfois pour, comme nous le dit les psaumes, d'arrêter et attendre sur l'Éternel, de le laisser lui agir et de prendre le temps de respirer. La meilleure façon qu'on fait cela, c'est à travers la prière, la lecture et l'écoute que nous avons envers Dieu pendant que nous lisons et prions. Ou parfois on prie, je ne sais pas si ça vous arrive ou si vous y pensez, mais de prier et d'avoir un temps de silence où vous arrêtez de parler, mais vous êtes toujours en prière. Bon, ça peut durer que 10, 15, 20 secondes. Ça pourrait sembler comme 2, 3, 4 minutes, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre notre propre silence. Mais où on laisse le Seigneur parler à notre cœur en réponse. Où on lit quelques passages et on s'arrête. Et on ne ferme pas, on ne prie pas encore, mais juste pour laisser le temps à ce que pour le Seigneur d'utiliser sa parole pour imprégner notre cœur, pour nous aider à comprendre notre esprit, pour nous parler tout simplement. C'est notre temps spirituel où on se repose, on n'est pas en train de faire, on n'est pas en train de se mettre au travail, on est en train de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est notre temps pour nous. On respire. On attend, on met les autres choses. Les responsabilités seront toujours là et on ne va pas les abandonner, on ne va pas les ignorer. Mais pour l'instant, c'est mon temps de sieste, de repos spirituel où je me ressource. Et je ne suis pas en train d'ouvrir la Bible pour trouver une réponse à un besoin spécifique. Je suis tout simplement en temps de communion avec mon Seigneur. Je lis, qu'est-ce que tu veux me dire? Je te parle, qu'est-ce que tu veux que... Je suis également à l'écoute pendant que je te parle. Parce que vous savez pourquoi Dieu nous a donné la prière, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour lui qu'il nous a donné la prière, mais c'est pour nous aider à nous. Alors de quelle façon est-ce que la prière nous aide? C'est souvent au moment de la prière que je peux me décharger de mes fardeaux, hein, qui m'empêchent justement de courir si facilement. Ces fardeaux qui me fatiguent. Et c'est quel meilleur moment et endroit qu'au moment de la prière de me décharger sur lui de tous mes soucis, de mes anxiétés, de mes fardeaux, dire je les remets entre tes mains. De ne pas lui remettre nos responsabilités, mais nos fardeaux, les choses qui nous pèsent. Hein, le salut d'un proche, comme on a parlé tout à l'heure. Un enfant qui nous tient à cœur pour quoi que ce soit. Ou, peu importe, un besoin, dit, je les remets entre tes mains. Quand l'occasion se présente, Seigneur, je suis là. Je suis prêt à témoigner. Mais là, je ne peux rien faire. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas devant moi. Je te les remets. Et on se décharge. Ou un besoin qui est à venir. Dire, il y a tel ou tel projet, il y a tel rendez-vous qui vient. Je te le remets entre tes mains. Je ne peux rien faire entre maintenant et ici. Je te le remets. Ce n'est pas je te le remets puis je continue à me mordre les ongles parce que je me demande qu'est-ce que tu vas faire. Mais je me décharge de ce fardeau qui m'alourdit, me fatigue. Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, n'est-ce pas? Venez à moi, je vous donnerai du repos, ce repos spirituel dont on a besoin. C'est souvent au moment de la prière, de la lecture de la parole de Dieu que je suis encouragé et béni aussi. Qu'est-ce que fait l'encouragement à la bénédiction? N'est-ce pas l'une des façons que le Seigneur utilise pour nous redonner force, redonner un peu de motivation, redonner un peu d'énergie? C'est ce que doit faire une sieste. Ça nous redonne cette force. Et il le fait à travers la lecture de sa parole. Un moment où je suis venu au Seigneur, le corps lourd, rempli de peine peut-être. Mais je me relève, le cœur léger, plein de joie. Qu'est-ce qui a changé? Les circonstances n'ont pas changé. Mais j'ai dû prendre du temps pour plonger, pas juste ma tête, mais mon cœur dans sa parole. Et je suis rappelé qui il est. Je suis rappelé peut-être de certaines de ses promesses. Je suis encouragé, je suis béni. Je me relève de ce temps de prière et de lecture, encouragé, bien mieux qu'avant que je n'ai pris ce temps. C'est souvent au moment de la prière que Dieu me redonne cette force et même cette volonté de continuer. La prière m'encourage et fortifie et me redonne un second souffle. Alors que même je suis, oui, fatigué. Mais je ne peux pas parler à Dieu, je ne peux pas le louer, l'adorer et tout lui remettre et ensuite penser à tout abandonner en même temps. C'est un temps de repos spirituel. Je ne suis pas en train de témoigner à quelqu'un. Je ne suis pas en train de travailler avec mes mains ou d'aller quelque part avec mes pieds. Je ne suis pas en train de parler, d'enseigner à quelqu'un. Je prends le temps de souffler, respirer. Je lis et j'écoute ce que Dieu veut me dire à moi. Je ne suis pas en train de chercher les Écritures pour savoir qu'est-ce que je dois donner comme réponse à quelqu'un d'autre. Et j'entends à travers cela ses encouragements. J'entends ce qu'il veut me dire. Et je lui remets mes fardeaux, je lui remets mes soucis, mon anxiété, tout ce qui essaye d'épuiser mes forces. Parce qu'il est normal d'être fatigué. Et quand on ne se repose pas, et qu'on ne se repose pas assez, ben c'est normal que cette fatigue ne parte pas. Il y aura toujours quelque chose à faire. Si on se dit, mais je ne peux pas me reposer parce qu'il y a quelque chose à faire, ben, ça sera toujours le cas. Parfois, il faut savoir arrêter de faire pour laisser Dieu agir. Psaume 27, 14, il y espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. N'est-ce pas cette façon de parler, que ton cœur s'affermisse, fait allusion à ce que tu es peut-être fatigué, tu serais peut-être prêt à te lasser, mais continue malgré la fatigue. Laisse le Seigneur encourager, fortifie ton cœur. Espère en l'Éternel. Le psaume 130, verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. C'est là où nous avons peut-être le plus grand problème. Ce qu'on prie et ensuite on veut. Et parfois Dieu dit prie et ensuite attends. Et ce temps d'attente, ça doit être un temps où on peut se reposer, respirer. Parce qu'il ne veut pas qu'on attende avec anxiété. Il ne veut pas qu'on attende avec crainte. Il veut qu'on attende avec foi. La foi chasse la crainte. La foi fait preuve de confiance. Je peux respirer parce que je sais que Dieu va. Je ne sais pas quand, je ne sais même pas comment, Mais je n'ai pas, j'ai aucune raison de douter que Dieu va faire comme il a promis. Et donc, en attendant qu'il va, je peux respirer. Et ça chasse un peu de cette fatigue. On ne se lasse pas. Vous vous sentez fatigué? C'est normal. Vous sentez l'impression de vous lasser? Ça arrive. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous avez peut-être parfois pas envie de le faire. Tout chrétien passe par cela. Peut-être est-ce que vous avez besoin de vous reposer un peu plus. Passez juste un tout petit peu plus de temps dans la prière, dans la lecture, pour votre bien à vous, dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Enseigne-moi, montre-moi, aide-moi à comprendre, je te remets tout. Et respirez un bon coup parce que votre foi en Dieu ne va pas vaciller. Parfois, on est fatigué, vous le comprenez bien, pas juste parce que on n'a pas eu le repos qu'il faut, mais parce que nous avons peut-être fourni un effort plus grand que d'habitude, que l'habitude. Bah, quand on revient d'un camp, par exemple. Une semaine, 2 semaines de camp, c'est pas le même régime et routine et qu'on a l'habitude à la maison. Mais nous comprenons le principe dans le domaine de la vie, même de l'athlète. On comprend qu'il va être plus fatigué si on court que si on marche. Il va être plus fatigué si il fait une randonnée à travers la forêt que s'il marche du frigo au canapé. L'effort n'est pas le même. Mais c'est pareil dans notre vie spirituelle. Nous allons tous avoir des moments dans notre vie où on va être, notre foi va être mise à l'épreuve plus sévèrement qu'à d'autres moments. Et quand Dieu nous aide et nous permet à ce qu'on ressorte victorieux de cette épreuve, on va y retrouver une grande joie et on va louer le Seigneur. C'est bien. Mais on serait peut-être étonné également de voir et de comprendre que la grande majorité de nos erreurs, nos fautes et nos manquements dans notre vie chrétienne, le moment où nous avons failli et désobéi dans notre vie personnelle, sont venus très rapidement après que nous avons eu également une grande victoire. Pas nécessairement parce qu'on était rempli d'orgueil et on se croyait si fort, oui, j'ai passé l'épreuve et on va dire merci Seigneur, mais on ne réalisait pas à quel point on était fatigué spirituellement parce qu'on s'est battu, parce qu'on a fourni un effort plus intense que d'habitude. Et maintenant, qu'est-ce qui est l'attitude normale quand quelqu'un fournit un gros effort? C'est une fois que l'effort est terminé, qu'il n'a plus besoin d'aide, c'est de se relâcher. Et parfois, on ne fait pas attention et on confond entre se relâcher et se reposer. On doit se reposer, mais on ne doit pas se relâcher. On doit se reposer, mais on doit être comme le soldat qui est toujours prêt au combat aussi. Mais il peut se reposer, il peut être au milieu de son camp, il peut être dans sa tente, il peut être sur son lit et avoir un bon repos, mais il n'est jamais loin de ses armes, il est toujours en tenue, il est prêt au moindre son et à la trompette, au moindre alarme, prêt au service. Mais il se repose, mais il ne se relâche pas. Et parfois, quand on a fourni ce gros effort, on confond les deux. Et au lieu de se reposer, on se relâche et comme le boxeur, on baisse les gardes. Et on se demande, comment est-ce que j'ai pu faire une si grosse faute après avoir eu une si belle victoire? Notre corps est faible et notre chair est faible. Pas seulement parce qu'on manque de repos parfois ou parce qu'on a fourni un gros effort, mais peut-être que le plus souvent, c'est parce qu'on a fourni un effort longtemps ou dans la durée. Souvent, quand je lis les passages, comme dans Galates, qui nous parlent de ne nous lasser pas de faire le bien, c'est souvent cette idée que j'y attribue. C'est justement difficile à cause de la durée. Et Dieu nous rappelle qu'on ne doit pas se lasser de faire le bien et surtout qu'on doit, nous devons faire le bien jour après jour et année après année sans exception. Et cela, malgré la fatigue, malgré les difficultés, malgré l'incompréhension des autres, malgré le fait que les autres voudraient nous voir arrêter, on n'a pas le droit d'arrêter de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. On comprend que la fatigue que subit un coureur de fond, celui qui court un marathon, n'est pas la même fatigue que celui qui court le 100 mètres. On comprend qu'elle n'est pas la même. Le coureur de 100 mètres sera tenté de se relâcher alors que le coureur de marathon, lui, pourrait être tenté à abandonner. La distance et la durée font une grande différence. Nous aurons l'impression, nous aussi dans notre vie chrétienne, par moments, que notre course, elle ne se termine jamais. Je suis sans cesse en train de me battre. Je suis sans cesse en train de lutter. Je suis sans cesse en train de, pour ma part, de lutter même contre ma propre chair, contre mon ancienne nature. Je n'ai pas l'impression, moi, de me battre contre le monde autant que je me bats contre moi-même. Je dis, j'en ai marre. J'en peux plus. Il dit, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de te battre. Ne te lasse pas de faire ce qui me plaît, moi. C'est normal. Hein, notre chair est faible. Il est normal d'être fatigué. Et je ne vois pas le moindre verset qui met le blâme sur le fait qu'on soit fatigué. Et j'apprécie cela de notre Seigneur. Mais à chaque fois que Dieu nous encourage, malgré la fatigue, pas à ne plus être fatigué, mais à ne pas laisser la fatigue être une raison suffisante pour arrêter ou abandonner et ne pas être obéissant. C'est ce que le passage que j'ai mentionné en Galates 5, 7. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il n'a pas dit, pourquoi est-ce que vous avez été fatigué? Pourquoi est-ce que vous êtes lassé? Il dit, mais pourquoi est-ce que vous avez arrêté? Et je pourrais continuer à parler combien notre chair est faible, mais je préfère voir ce deuxième point bien plus rapidement, parce que c'est beaucoup plus encourageant. Parce que oui, notre chair est faible, mais on a de la force à travers la grâce de Dieu. Parce que la force de la grâce que Dieu me donne la force dont j'ai besoin, parce qu'elle va, entre autres, encourager mon cœur. Et notre passage est même en Ésaïe. Je vais revenir dans un instant, parce que là je me dévance un peu, mais nous avons beaucoup plus de versets qui nous enseignent et nous encouragent à fortifier notre cœur que notre tête, à fortifier notre cœur que d'augmenter notre compréhension intellectuelle de la parole de Dieu. Nous pouvons être fatigués. Quand notre cœur est encouragé, on peut être fatigué mais pas désespéré. Quand notre cœur est ferme, nous pouvons avoir des doutes mais pas douter de la personne de Dieu. Nous pouvons admettre que nous sommes faibles tout en acceptant que je puis tout par Christ qui me fortifie. Les circonstances extérieures ne changent pas notre homme intérieur. En 2 Corinthiens chapitre 4 versets 15 à 18 nous dit « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non au point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les choses et les invisibles sont éternelles. » La grâce de Dieu qui fait toute la différence, c'est à cause de la grâce de Dieu que nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, oui, j'ai mentionné la semaine dernière que... Quand j'avais l'âge de notre ami David, je faisais de l'athlétisme. Aujourd'hui, du lancer de marteau peut-être à la rigueur. Non, je faisais les 100 mètres, 200 mètres, etc. Mais l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est ce qui nous aide à continuer alors qu'on est fatigué, alors qu'on est souvent ce qui nous accable le plus, parce qu'on est déçu. La déception nous touche différemment, n'est-ce pas? Et peut-être même souffrant. La force de notre volonté ne va pas être suffisante. Mais la grâce de Dieu, elle doit faire toute la différence. Parce que c'est lui qui renouvelle nos forces. C'est lui qui nous aide à ne pas abandonner. C'est lui qui nous éclaire et nous aide à nous rappeler et à nous accrocher à sa personne et à ses promesses. Parce que, est-ce que je crois que Dieu va m'aider parce que je le mérite? Pas du tout. Ou bien est-ce que je sais que Dieu est fidèle et juste pour m'aider, malgré moi, dans son amour et par sa grâce. Alors, si on prenait les exemples hein, des héros de la foi qu'on trouve dans Hébreux chapitre 11, il fait toute cette liste de ces héros de la foi. Ne sont-ils pas considérés des héros parce qu'ils ont justement placé leur foi en Dieu malgré la fatigue, malgré les dangers, malgré le fait de ne pas toujours être populaire hein, pour Noé, etc., et d'aller contre la tendance du moment. Et pourtant, pas un seul dira qu'il a pu être obéissant jusqu'au bout sans la grâce de Dieu. Notre passage en Ésaïe 40 nous dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, car Dieu, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, qu'est-ce que lui dit de sa personne? Lui, il ne se fatigue pas. Lui, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alors, la force, c'est que le verset 29 nous dit, c'est lui, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mentionne-t-il une seule fois que Dieu fait tout cela parce qu'on le mérite? Non, mais à cause de qui il est, par amour et dans sa grâce. Dieu ne se lasse pas de donner sa force, d'augmenter notre vigueur. Pour moi, ça implique même notre motivation, la volonté de continuer, et nous aide à n'avoir absolument aucune raison d'abandonner, d'arrêter, de nous lasser de faire le bien. La fatigue, elle n'est pas une excuse. La fatigue devrait même nous pousser à laisser place à la grâce de Dieu. Je ne sais que je n'y arrive pas, je sais que Dieu peut, je sais que je ne le mérite pas, mais je sais que Dieu va. 2 Corinthiens 12, 10 nous dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Quand je vis pour lui, ça fait toute la différence. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pas beaucoup d'entre nous pourrions dire, je me plais dans mes faiblesses. Peut-être qu'on n'en est pas encore arrivé là. Mais que le Seigneur, dans sa grâce, puisse nous aider à en arriver au même point que Paul, dire, je comprends mieux maintenant, plus que jamais, quand ma faiblesse laisse place à ta grâce. Parce que quand ta grâce agit, c'est alors que je suis fort. La grâce me donne de la force parce qu'elle me redonne également espoir. Si la grâce ne redonne pas espoir, alors comment pouvons-nous vraiment espérer dans la vie éternelle? Si la grâce ne donne pas espoir, comment pouvons-nous vraiment savoir qu'on est sauvé comme il l'a promis? Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, comme je l'ai dit, je suis fatigué, je suis épuisé de lutter contre le péché dans ma vie. Mais ce n'est pas parce que le péché a eu le dessus sur moi à maintes reprises que je dois arrêter. La grâce de Dieu me fait comprendre que malgré les nombreuses fois que moi je suis tombé dans le péché, Dieu, dans sa grâce, peut et veut m'aider à avoir la victoire sur ce péché dans ma vie. Si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, de continuer à me battre contre le péché serait futile. C'est une perte de temps. Mais avec et par la grâce de Dieu, malgré le fait que je suis souvent déçu de moi-même, fatigué de lutter contre les mêmes péchés dans ma vie, où Dieu m'aide à voir que ce n'est pas en vain. Par sa grâce, je veux être prêt à fournir l'effort nécessaire pour être fidèle, pour que lui puisse faire dans mon cœur ce qu'il m'était incapable de faire moi tout seul. Par sa grâce, il m'aidera à non seulement persévérer dans l'épreuve, mais il m'aidera à le faire avec la bonne attitude et donc avec le bon témoignage. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, ben ça serait par moi. Et ça, c'est rien. On l'a déjà dit, le moi est faible. Et donc voué à l'échec. La grâce de Dieu me redonne espoir. Et quand on est rempli d'espoir, ben abandonner, c'est même pas possible. Ce n'est pas l'athlète qui est plein d'espoir qui va dire, oh non, c'est même pas la peine que je commence la course. Parfois, on est amené à être fatigué, de se lasser de faire le bien dans le domaine de la prière, de notre lecture. Ces endroits où on avait dit qu'ils nous apportent ce repos et de se décharger comme on aimerait. Mais parfois, c'est justement dans le domaine qu'on se lasse, n'est-ce pas? Ne vous lassez pas de faire le bien. Est-ce que ça n'inclut pas notre temps de prière, notre temps de communion personnelle avec le Seigneur, notre temps de prière? Ce sont pourtant les deux endroits où nous trouvons la grâce de Dieu. N'est-ce pas en lisant les Écritures que j'apprends de plus en plus et de mieux en mieux qui est Dieu et comment il opère sa grâce envers moi? Et ne vais-je pas dans la prière en faisant confiance à sa grâce? Je ne vais pas dans la prière avec arrogance, en croyant que Dieu, que je mérite que Dieu réponde à mes requêtes, mais avec humilité, faisant confiance en la grâce de Dieu. Vous connaissez peut-être le passage en Romains chapitre 5, versets 20 et 21, il dit « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Oui, le péché peut abonder dans notre vie, mais la grâce va toujours, toujours, sans exception, surabonder. Dieu est toujours prêt à pardonner. Dieu est toujours prêt à restaurer. Ne nous lassons pas. Il le dit dans notre passage. Lui qui ne se lasse point. Lui ne va pas se lasser de pardonner. Lui ne va pas se lasser à nous restaurer. Lui ne va pas se lasser à nous enseigner. Il ne va pas se lasser à pourvoir et à protéger et à guider, etc. C'est à nous de ne pas nous lasser de faire le bien. Alors, pour conclure, il faut qu'on y rajoute quand même l'outil de la foi, l'obéissance de notre foi, parce que c'est par la foi que nous sommes obéissants en l'Éternel, normalement. Nous sommes venus au Seigneur et à Dieu pour notre salut, non avec nos œuvres, n'est-ce pas, mais par la foi, faisant confiance dans la grâce de Dieu. Nous acceptons le salut que Dieu nous donne, nous acceptons son pardon pour nos péchés, nous acceptons la nouvelle vie en Christ qu'il nous donne. Il va de soi qu'on doit également maintenant accepter de vivre pour lui, par la foi. Si nous voulons être fidèles et vivre pour Dieu, nous devons également le faire quand nous sommes fatigués, et pas seulement quand on se sent en pleine forme. Mais même quand on doit nager contre courant, même quand on doit lutter contre notre propre chair. Même quand on a l'impression que ça dure depuis toujours, que ça ne termine jamais, je dois être toute la définition de la fidélité, c'est de pouvoir traverser cette ligne d'arrivée, de ne pas abandonner en chemin, de ne pas se lasser, de ne pas arrêter. Nous avons la foi pour que Dieu nous accorde sa grâce et donc son salut. Maintenant, je dois continuer à grandir dans ma foi et je lui fais confiance pour m'aider à continuer à le servir, même quand je suis fatigué, si ce n'est pour dire surtout quand je suis fatigué. N'est-ce pas surtout quand je suis fatigué que je fais confiance que Dieu me fera grâce de son pardon, de son amour, de son aide, de sa force, de sa sagesse. Je ne me lasse pas de faire le bien, non parce que j'ai confiance en moi, mais parce que je fais confiance entièrement à Dieu. Par la foi, j'obéis à sa volonté. Peu importe la fatigue, peu importe depuis combien de temps je lutte, peu importe si les autres abandonnent la course, je ne me soumets pas seulement à sa volonté, mais également à sa force pour accomplir sa volonté et non la mienne. Il y a tellement d'autres choses que j'ai marquées, que j'aurais aimé partager, mais je sais que j'ai déjà pris beaucoup plus de trop de temps ce matin. Mais Ésaïe 40, verset 29 nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et l'augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Encore une fois, on aurait pu se focaliser sur trois dernières phrases du verset 31, comme on le fait souvent. Il dit « Ça, c'est ce que Dieu, pas seulement peut faire, mais c'est ce qu'il veut faire. » Ce n'est pas juste qu'il en a la capacité, mais il a la volonté. La seule chose qu'il attend, c'est la même chose qu'il attend pour chaque homme et femme par rapport à son salut. Un cœur contrit, humble, qui accepte que c'est comme cela ce que Dieu le veut. Que je n'ai pas, parfois j'ai besoin de la force de Dieu, parfois je peux le faire avec ma propre force. Mais j'ai toujours, sans exception, besoin que Dieu me donne sa force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur, donc même la volonté de celui qui tombe en défaillance. Verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Vous voyez, ces deux premiers mots du verset 31. Mais ceux, donc ça c'est eux, on peut dire mais vous, si c'est votre cas. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, se confier c'est je te remets tout, pas je te... remet en partie, je te fais confiance avec le tout. Ils se confient en l'Éternel. Cela renouvelle leur force. Prennent le vol comme les aigles, courent et ne se lassent point, marchent et ne se fatiguent point. Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on court de par nos propres forces. Jamais. Il n'a jamais demandé à ce qu'on surmonte notre fatigue de par nos propres forces. Dieu a toujours voulu que l'évidence de notre faiblesse prouve l'évidence de notre besoin de Dieu dans notre vie. Et je vais terminer en lisant juste quelques passages pour vous. Et on aura un mot de prière après ce dernier passage. Premier, vous connaissez l'histoire de Job, j'imagine. Et vers la fin de ce livre, en Job chapitre 26, versets 2 et 3, il dit « Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. » Heureusement, n'est-ce pas? « Comme tu prêtes secours aux bras sans force. Quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. » Et ça, c'est, encore une fois, sans aller dans les contextes, ce par quoi Job est passé et pour en arriver à ce point-là, mais la vérité reste même pour aujourd'hui. Ce n'est pas juste qu'il sait venir en faiblesse, venir en aide à la faiblesse, mais il aime venir. On a lu le passage tout à l'heure en Galates 6, 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Il le répète une autre fois en 2 Thessaloniciens 3, 13. Il dit, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ce n'était pas juste pour l'église de Galatie. Ce n'est pas juste pour l'église de Thessalonique. C'est pour tout chrétien. On doit pas, on n'a pas le droit de laisser la fatigue être une raison suffisante pour qu'on arrête de continuer à faire ce qui plaît à Dieu, ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et je termine avec 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Bon, pas nécessairement de plus en plus, mais de mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc même le fait de pouvoir persévérer, de continuer malgré la fatigue, de ne pas se lasser de faire le bien, ce n'est pas en vain. On peut en avoir l'impression, notre chair pourra nous dire tu perds ton temps, c'est inutile, arrête, tu es le seul à faire cela, toutes les mensonges qu'il voudra nous faire croire. Mais Dieu nous dit non, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, votre travail ne sera jamais, jamais en vain pour le Seigneur. Prions s'il vous plaît.